Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Le Nouvel Automobiliste et sur Automatin pour vous parler d'une nouveauté chez Mitsubishi, ce qui n'est pas si courant que ça, que nous avons essayé, le Mitsubishi ASX en version hybride HEV, hybride classique, 145 chevaux InStyle. Et mon titre est « Tous les bons côtés du Renault Captur ». Avant de réaliser cet essai, je n'avais jamais conduit de Renault Captur, dont la SX partage la même base. Ce fut une agréable découverte dans sa version hybride non rechargeable. Nous n'avons hélas pu conduire que cette version, notre essai ayant dû être écourté à cause des grèves de transport. Sinon, nous aurions aussi essayé, comme certains de nos camarades, la version hybride rechargeable. Mais vous verrez que c'est plutôt l'hybride classique qui est intéressante. Nous nous retrouvons donc à Biarritz pour un parcours en France et en Espagne au volant de la version InStyle haut de gamme de la SX. L'essai combine une partie en ville, un parcours sur autoroute et enfin de la petite route sinueuse. Mais revenons aux bases. Côté design et côté extérieur, c'est sans surprise, la SX est très proche du Captur avec une calandre spécifique agrémentée de badges un peu ostentatoires pour montrer que c'est un Mitsubishi et qu'il est hybride. Tous les véhicules de notre essai étaient équipés d'un accessoire spécifique à Mitsu, un grand marchepied qui modifie un peu le look très urbain de la version de base. Côté intérieur, l'InStyle hérite d'un intérieur en cuir au design très différenciateur et très travaillé et plutôt très sympa. Une belle valeur ajoutée pour ce niveau de gamme de la SX. La motorisation d'entrée de gamme est quant à elle équipée d'une sellerie en tissu noir toute classique, alors que le milieu de gamme dispose de sièges garnis de tissu et de tape, plus communément appelé Sky. Dans tous les cas, la sellerie est différente de l'offre présente chez le cousin de Billancourt. Si certains ont envie de comparer l'offre ASX avec celle du Captur, cela pourrait être un élément d'arbitrage entre les deux offres et qui sait faire la différence. Les sièges avant sont très très confortables car ils conjuguent un certain moelleux avec un vrai bon maintien latéral. La banquette arrière est elle aussi bien conçue. On peut même envisager raisonnablement de voyager sur la place centrale arrière, ce qui est rarement le cas dans les voitures modernes. La banquette est coulissante sur 16 cm et elle est aussi empruntée au Captur. A noter qu'elle s'inspire, bien sûr, dans la réalité, vraiment dans le fonctionnement, de celle créée pour la Twingo 1 en 1994. Cette banquette très fonctionnelle peut être avancée pour que les passagers avant soient proches d'un enfant en bas âge installé à l'arrière, par exemple, ou reculer pour donner de la place aux jambes si l'on a des adolescents installés là aussi à l'arrière. Le volume du coffre passe ainsi de 422 litres avec la banquette reculée au maximum à 536 litres avec la banquette ravancée vers vous. Côté coffre, sur notre version hybride classique, une planche recouvre un second espace situé sous le plancher. En version hybride rechargeable, cet espace est occupé en partie par la batterie. En revanche, quand on avance la banquette, un espace pas franchement utile se trouve dégagé, vraiment au fond du coffre. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra enlever cette plaque, cette plage de fond de coffre, pour avoir vraiment à disposition tout le coffre sans recoin. Au volant, il est très facile de trouver une bonne position de conduite, en particulier sur notre finition InStyle qui a le siège conducteur réglable électriquement. Dans cette finition, les deux sièges avant sont aussi chauffants, bien sûr parce qu'ils sont en cuir. Petit détail, l'évolution actuelle des interfaces climatisation vers le tout tactile nous a fait un peu oublier le plaisir de régler sa climatisation avec des boutons bien réels, comme sur la SX. Enfin, nous allons parler aussi, ça me fait la transition infotainment, c'est-à-dire l'écran. La SX reprend tout l'électronique découvert en 2021 sur le facelift du Captur. Par rapport aux autres concurrents, c'est plutôt bien réalisé, rapide et exempt de bug. Ce n'est pas toujours le cas sur les véhicules de la concurrence. La connexion du téléphone est compatible Android et Apple CarPlay avec un appairage très facile. Derrière le volant, l'écran change de configuration suivant que l'on choisisse le mode MySense, Sport ou Eco. On y reviendra. Il est possible d'avoir entre autres le GPS répliqué sur le côté gauche du combiné conducteur ou encore la pochette de la chanson que l'on écoute via CarPlay. Il est même possible d'avoir CarPlay en même temps que le GPS d'origine sur le grand écran central de 9,3 pouces, celui que l'on a sur notre version d'essai, ou même sur la version 7 pouces de la version milieu de gamme. La commande vocal permet aussi de commander le système multimédia et le téléphone. La recharge justement du téléphone à induction est de série sur l'InStyle et fonctionne plutôt lentement, mais l'écran du téléphone reste visible. Toujours sur la version et la finition InStyle, le son est signé Bose avec 9 haut-parleurs, avec un ensemble qui délivre un son plutôt correct. Surtout que l'auto est très correctement insonorisé. On y reviendra. Cerise sur le gâteau, il y a 2 prises USB sur la console avant, plus 2 à l'arrière. Fait rare, on a même une entrée son via un jack 3,5 à l'avant. Il est ainsi possible d'écouter de la musique via un téléphone ou un player MP3 qui n'a pas de Bluetooth. Un vrai plus pour les clients de cette auto, pas toujours jeunes et encore moins geeks. Les commandes au volant sont classiques, avec la gestion du régulateur de vitesse à gauche et celle du téléphone et de l'ordinateur de bord à droite. En complément, on dispose d'un petit satellite à la Renault, situé à droite derrière le volant. En gros, c'est quasiment le même satellite très intuitif que Renault avait lancé il y a 38 ans sur la Renault 25. L'offre d'électronique embarquée et d'aide à la conduite est très complète. Détecteur de franchissement de ligne, détecteur d'angle mort, régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d'obstacles. La voiture freine, heureusement, si un piéton traverse soudainement par exemple. Aide au maintien de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, mais pas des douaniers. Et oui, nous avons fait une rencontre assez amusante. Notre parcours passé un petit peu dans la montagne entre l'Espagne et la France, sur des chemins qui sentaient bon la contrebande, et à un moment nous avons vu surgir une Ibiza jaunâtre, pas très fraîche, avec un conducteur à béret et à blouson, qui s'est arrêté à nos côtés et qui est sorti avec le revolver à la ceinture et qui nous a demandé qu'il était des douanes, volantes bien sûr, et qu'est-ce qu'on faisait par là. Notre réponse ayant été de dire qu'on traversait la frontière pour faire quelques essais de la voiture, ils ont été tout déçus, ils sont repartis, on n'a même pas pu prendre une photo. C'est assez décevant. Mais bon, dernier point concernant l'électronique, le radar de stationnement et la caméra de recul sont plutôt bien, mais la caméra est bien placée, mais sa résolution n'est pas à la hauteur du reste de l'écran et de l'électronique. Allons du côté de la motorisation. La puissance cumulée de la version que nous avons essayée, hybride classique, atteint 143 chevaux avec 91 chevaux venant du moteur thermique, 47 chevaux du moteur électrique principal, ME, et 20 chevaux du petit moteur électrique qui fait les phases de démarrage et le changement de la boîte de vitesse. On va y revenir. Tout cela pour des émissions de seulement 114 grammes. Alors même si on ne l'a pas essayé, on vous parle quand même un petit peu de l'hybride rechargeable qui lui passe à 159 chevaux, toujours 90 chevaux thermiques, un peu plus de puissance de l'électrique classique, 66 chevaux, et toujours un petit moteur complémentaire de 34 chevaux pour aider. On va vous expliquer le fonctionnement. Vous l'avez compris, à aucun moment, les trois moteurs ne délivrent leur puissance intégralement au même moment, ce qui explique pourquoi le cumul des trois puissances ne correspond pas à la puissance annoncée par le constructeur. L'atout vraiment de l'hybridation de la SX vient de sa boîte de vitesse. Elle comporte, attention, accrochez-vous bien, 2 rapports qui managent le moteur électrique principal, un rapport court et un rapport long, plus 4 rapports qui gèrent le moteur thermique. En deuxième, troisième et quatrième rapport, ils sont indépendants du moteur électrique. Tandis que sur leur premier rapport, eh bien ça dépend quel rapport est enclenché sur le moteur électrique. Ce qui permet au final 5 modes de fonctionnement. Même si ça n'est pas comparable à une boîte classique, on est quasiment comme une boîte à 5 vitesses. Donc, le démarrage du véhicule se fait obligatoirement avec le petit moteur électrique sur le rapport court. Puis en fonction de la demande de puissance que vous exercez, les jeux des rapports dédiés au moteur électrique s'adaptent s'adapter pour amener la puissance. Si la demande de puissance est faible, on se retrouve en mode e-drive. Le moteur électrique principal entraîne les roues et la batterie de la traction est chargée via le moteur à combustion interne plus le petit moteur. Si la demande de puissance est importante, alors on est en mode dynamique, le moteur électrique principal pousse, le moteur thermique aussi, et même le petit moteur peut vous aider. Ce principe de fonctionnement fait que le dernier rétrogradage possible se situe aux alentours de 115 km/h. Là, on passe en quatrième thermique plus électrique. Et évidemment, cela est un petit peu perturbant parce que si vous avez besoin de doubler un véhicule, eh ben vous n'allez pas pouvoir rétrograder. Il va falloir, entre guillemets, attendre que tous ces moteurs délivrent leur puissance et fassent fonctionner la voiture. Petite précision, en marche arrière, vous êtes en tout électrique. Tout ça pour nous amener à un point très important sur un hybride, la consommation. Un des arguments du passage à l'hybride est la réduction justement de cette consommation. Sur le parcours de notre essai, Eric et moi-même sommes arrivés à des chiffres de consommation comparables, pour autant avec des styles de conduite pourtant très différents. Environ 5 litres 2, 5 litres 4 en ville et aussi sur route nationale à rythme familial. Pas plus de 6 litres 2 sur autoroute à vive allure ou en montagne avec une conduite très très dynamique. Sur un parcours de 91 km, nous avons roulé près de 47 km en mode, full électrique. Côté conduite, nous sommes en présence d'une auto familiale dont le comportement routier est exemplaire. En effet, quand vous haussez le ton, les freins restent toujours performants avec une attaque agréable et un toucher très progressif. La direction précise en conduite cool reste parfaite à rythme plus soutenu. La voiture est très sécurisante et neutre, un tout petit peu dynamique de l'arrière quand on la pousse vraiment dans ses derniers retranchements. Tout cela est vraiment une réussite. La motricité n'est jamais vraiment remise en cause, même en mode sport. L'électronique intervient en effet très tôt et fait que l'arrivée de la puissance est très lissée. Seul défaut, on cherche un peu où sont les 143 chevaux promis. Au démarrage, jusqu'à 30-40 km/h en particulier. Après, on ressent l'apport du couple du moteur électrique principal. Elle redevient hélas à nouveau assez lymphatique au-dessus de 120 km/h. La boîte n'est pas toujours très vive, mais elle ne patine pas trop si l'on ne va pas chercher la pleine charge qui nécessite toute la puissance du moteur thermique et à ce moment-là que l'on entend un peu beaucoup. Par contre, la position sport s'avère très brillante pour peu de gains en performance. Lors d'une réaccélération à 120 km/h, on est à 60 décibels en mode éco, 80 décibels en mode sport. La voiture reste pour autant très très silencieuse, même vitres baissées, outre ouvrant ouvert. Côté tarif, la gamme proposée par la SX est construite de façon différente de son cousin Captur. Ici, moins d'ambiance et d'options, mais une politique du tout inclus à la japonaise. Au final, des tarifs comparables qui rendent l'offre de la SX performante et même pertinente avec en cadeau la garantie 5 ans, 100 000 km Mitsubishi. La différence de prix entre le Renault et le Mitsui est en moyenne de 2000 euros à motorisation et finition proche. La version par exemple que nous avons essayée, la SX HEV 145 InStyle, est facturée 38 000 euros contre 34 500 pour un Captur HEV 145 en finition iconique. Mais la SX, dans cette version, propose en série l'audio Bose, le toit ouvrant panoramique ou encore le système de conduite semi-autonome, des équipements que Renault facture en option. À la concurrence, la 2008 n'a pas d'hybridation, la C3 Aircross n'en a pas non plus, mais est mieux placée. Son vrai concurrent pourrait être plutôt la Toyota Yaris Cross, qui elle est proposée en transmission intégrale, ou le Hyundai Kona, qui lui aussi a une garantie 5 ans. Vous pourrez retrouver dans l'article écrit le détail des options et de la construction de gamme, qui commence à 24 900 euros en Invite avec compteur analogique, un écran tactile de 7 pouces, CarPlay, Android et une centralisation pour aller à notre produit essayé, InStyle, à 38 000 euros. Clairement, l'arrivée de la SX va donner un peu d'air et un peu de motivation, même s'ils n'en ont pas beaucoup perdu, au concessionnaire Mitsubishi et leur permettre d'attendre l'arrivée de la Colt, qui va être un peu le même principe avec la reprise d'une Clio adaptée à la sauce Mitsubishi, et surtout l'Outlander PHEV, qui était vraiment un des produits phares de Mitsubishi, qui va revenir en 2024. En conclusion, la SX est une Renault Captur, un Renault Captur rebadgé pour le meilleur et le meilleur. Le Captur est une excellente auto, ses chiffres de vente sont là pour le prouver. En particulier, l'offre technique est très large et répond à toutes les attentes. Le Mitsubishi reprend toutes ses offres et rajoute ses spécificités et son équipement généreux. Un réseau qui doit essayer offrir des services ainsi qu'une garantie de 5 ans. Voilà enfin un rebadgage qui n'est pas juste un replâtrage destiné à vendre des véhicules en fin de vie ou produits par une marque qui vient de mourir. Petit clin d'œil et petit remerciement à Guillaume Dardin et à son site que vous pouvez retrouver dans l'article qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la boîte automatique et du fonctionnement de la boîte du PHEV et HEV Renault, ce qui n'est pas évident avec les éléments qui étaient donnés. À très bientôt.